icône pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
S'aimer quand on est dans la séduction, c'est facile, c'est du théâtre. S'aimer dans les épreuves, c'est autre chose. Parole de cinéaste, et c'est tout l'enjeu de ce film. Une histoire d'amour envers et contre tout. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Il s'agit bien d'une interrogation sur la capacité et les limites de l'engagement amoureux dans ce film. Les Intranquilles de Joachim Lafosse, ils le sont tous les trois, le père, la mère et l'enfant. Bonjour Leïla Bekti.
Bonjour.
Le mot maniaco-dépression n'est prononcé qu'une seule fois et pourtant cette maladie du père parcourt tout le film et gangrène la vie de cette famille. L'intranquillité de Damien devient la vôtre. Bonjour Damien Bonnard.
Bonjour.
Un artiste, un peintre dans ce film entre exaltation et abattement. Crédible, très crédible devant la toile, formé aux Beaux-Arts dans votre jeunesse. Votre atelier dans le film est celui reconstitué d'un peintre flamand. Bonjour Piet Tram donc.
Bonjour.
Votre atelier, vos peintures et celles exécutées ensemble avec Damien Bonnard, Piet, acteur en quelque sorte de ce film, Les Intranquilles. Il sort mercredi prochain. Enfin, une riche semaine de cinéma entre François Ozon et Matt Damon. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Si je ris, si je parle beaucoup, si j'ai l'air très en forme, si j'écoute de la musique très fort, si je danse, si je fais rire les autres, alors il faut s'inquiéter. Le pire est à venir. Être heureux est dangereux. Pour moi, être en colère aussi. L'émotion forte m'est interdite, elle bouscule trop de choses dans ma tête, aux pensées et aux souvenirs mal accrochés. Une crise s'annonce. Je la vois venir dans les yeux d'Elisabeth. Elle sait, elle a appris avec le temps. Et j'ai peur de ce qu'elle est en train de prévoir. Je lui en veux déjà, je sens bien qu'elle ne m'écoute plus, qu'elle m'observe et se demande s'il est encore temps d'appeler le médecin ou s'il faut directement composer le numéro de la police.
Ce texte que vous venez de lire, Damien Bonnard, est extrait du livre L'Intranquille de Gérard Garouste et il pourrait bien... Eh bien, résumer l'esprit de ce film, les intranquilles. Dès l'ouverture, le malaise est déjà là, l'inquiétude d'une mère, votre personnage, Leïla Bekti, qui attend sur la plage le retour de son mari et de son fils parti en bateau. Le film, lui, est inspiré, il ne s'en cache pas, du père de Joachim Lafosse, un photographe qui n'a jamais vraiment réalisé ses rêves. Ce côté autobiographique, est-ce que ça vous a donné une certaine responsabilité à tous les deux?
Déjà, je pense que la responsabilité, elle est quand on nous confie un rôle. Moi, je dis souvent que souvent en France, en plus, les réalisateurs sont souvent scénaristes de leurs propres films, et c'est un beau cadeau. C'est en gros, ils nous disent, est-ce que tu peux raconter cette histoire à notre place? Donc, du coup, c'est déjà maintenant, c'est vrai que
l'histoire est douloureuse.
L'histoire, voilà. Et puis, je sentais bien que Joachim, c'était un film important pour lui, mais c'était aussi un film important pour nous. Et c'est vrai que j'ai senti en tout cas j'ai senti que le sujet était très intime dans la mesure où j'ai vu que le regard qu'il avait sur ce couple était très nuancé. C'est pas du tout manichéen. Et c'est ce qui m'a bouleversé.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bourreau et une victime.
Non, parce que ce serait trop facile. Malheureusement, c'est ça. Et moi, c'est ce que je voulais aussi pour le personnage de Leïla, c'est que je voulais qu'on l'aime autant qu'on la déteste, autant qu'on la comprenne pas. Je sais qu'on a envie qu'elle parte des fois, qu'on a envie que... Enfin, c'était important de pas forcément donner des circonstances atténuantes à chacun de nos personnages, que de pas avoir peur de ça.
Et puis il y a aussi une tentation pour la femme de cet artiste bipolaire, c'est d'enfermer son mari dans un mot et dans un diagnostic.
Exactement, ouais. Elle le voit comme un diagnostiqué, comme lui me voit comme une infirmière.
De l'enfermer dans un rôle d'infirmière, et j'ai pas envie que ce soit mon infirmière en fait, je veux que ce soit ma femme, la mère de mon fils, mon amante, enfin tout ça, mais moi j'avais comme toi la responsabilité de deux choses. J'avais l'envie de retranscrire c'est avant tout une histoire d'amour et ses déchirements et tout ce qui se passe avec. Et puis après, en fait, avec par rapport à Joachim et l'histoire qu'il voulait raconter, et puis par rapport à des gens que j'ai rencontrés pour préparer le personnage et dont un ami qui souffre de ça, il y avait évidemment quelque chose qu'il fallait qu'on soit juste, mais pas forcément réaliste, mais juste.
T'as vu comme c'est beau?
C'est beau, hein?
Ah, mais papa, arrête, parce que tu pues. Mais arrête.
On peut s'amuser quand même, hein?
Non, donc t'as pas pris de douche, non? Mais oh, arrête.
Ami?
Elle va te recoucher vite encore. Bien ce que t'as fait, mon cœur. Hmm? Tu te reposes maintenant. Damien. Damien, faut que tu dormes.
Hmm? Ouais, t'inquiète.
Tu repars, là.
Tout va bien.
Damien, tu vas prendre ton traitement et tu vas dormir. Ok? Hmm? Damien, si tu retournes à l'hôpital, je suis pas sûre d'être là à ton retour.
Ah, bien. Je suis bien lancé, là.
Femme conseillère, elle porte tout. Cette femme, Elisabeth Tis, c'est un rôle hyper physique, en fait. C'est comme si vous portiez le film sur vos épaules. Non, non, c'est vrai. Vous n'arrêtez pas d'être inquiète tout le temps, de bouger, de travailler, d'aller chercher l'enfant, de retenir le mari.
Elle est intranquille. De toute façon, ce titre-là, il est pas au pluriel par hasard. Ils sont tous les trois intranquilles. Mais c'était, j'aimais l'idée qu'elle restaure des meubles, elle répare. Elle a l'impression de réparer sa famille. Elle a l'impression que c'est son devoir, même. Et ce que j'ai aussi, ce qui était assez important pour moi aussi, c'était de montrer qu'elle n'était pas soumise, que c'était un choix. On parle beaucoup de féminisme et c'est, le féminisme aussi passe par là, par le choix. Moi, si j'ai envie d'arrêter mon travail demain et de m'occuper de mon mari, c'est mon choix et ça fait pas de moi quelqu'un de soumis. Et ce que j'ai aimé, c'est que l'idée qu'elle continue de travailler, qu'elle veuille encore réparer tout ça, et puis physiquement. Je sortais d'un accouchement, donc j'avais des kilos en trop, et Joachim m'a demandé délicatement de les garder, parce que je voulais maigrir. Mais il me l'a demandé très... C'était très mignon.
Non, mais c'est
important.
Une mère, c'est très important.
Ouais,
la
exactement.
La maternelle,
exactement.
À tout, y compris physique, comme vous venez de le dire,
oui.
C'est extrêmement important.
Oui, puis j'avais envie de donner... C'était pas... Alors, j'aurais pu le faire en étant moins en forme, on va dire. Mais c'était... Je trouve que la bouffe, c'est un refuge quand on va pas bien. Et moi, en tant que spectatrice, quand je vais au cinéma, que je vois l'actrice... qui me dit qu'elle en peut plus et qu'elle pense plus à elle et qu'elle a des cils qui vont jusqu'à Porte d'Orléans et une super belle bouche, je me dis bah moi aussi j'aimerais bien pas penser à moi comme ça en fait. Et du coup c'était important pour moi. Alors je sais c'est d'ailleurs la chose dont on me parle le plus quand après le film on me dit ça fait du bien parce que on me voit et puis même on a rajouté des scènes où je mange où je elle son refuge, c'est vraiment. Et puis d'ailleurs, c'est une famille qui aime bien manger. Ouais. J'aime bien ça. Ouais, j'aime bien. Le petit qui enlève le gras de son jambon comme ça. J'adore ces moments-là. Je trouve que c'est des moments de vérité.
Il voulait jamais manger son gras de jambon.
Damien, vous avez deux rôles à jouer, c'est vrai. D'abord, effectivement, ce mal-être, et puis ensuite le peintre. On va commencer par cette maladie entre phase maniaque et épisode de dépression.
Ouais.
Qu'est-ce qui est plus difficile ?
Pas l'un sans l'autre.
Non, mais qu'est-ce qui est le plus difficile à jouer finalement, les hauts ou les bas ?
Eh ben, bizarrement, les bas.
Ouais.
En fait, je peux bizarrement, la non-énergie m'a demandé beaucoup plus d'énergie. Le fait d'être lent, d'avoir du mal à articuler, d'être lourd, d'avoir le regard dans le vide, tout ça, c'est beaucoup d'énergie pour peu de choses, enfin, peu de mouvement et peu de, ouais.
Et en revanche, pour les hauts, il faut pas en faire trop non plus.
Ouais, bah après tout était une histoire de dosage, quoi, parce qu'en fait on
comme les médicaments.
Comme les médicaments, mais on a dû doser. Enfin, en plus on a beaucoup travaillé aussi avec Luc Fouché, enfin avec Françoise Gorog, avec des psychiatres comme ça où j'ai voulu décrypter le scénario, plus mon ami, plus des lectures pour voir quels étaient exactement les effets pour savoir parce que j'ai pas pris du lithium pendant le film, mais pour savoir ce que ça faisait et tout ça. Et après, il fallait aussi que ça soit juste à la caméra parce que ça peut être juste physiquement, mais à l'image ça peut ne rien rendre d'intéressant. Donc, fallait trouver le bon rythme, et ça, on le faisait avec la script, avec Joachim, pour trouver ce qui était juste, et surtout, le retrouver de scène en scène, et faire évoluer ou pas la chose. Enfin, voilà, c'était un travail précis.
Ouais, et puis, la lecture aussi du livre de Gérard Garouste, ouais. Dont vous avez lu un extrait au début.
Qui a fait partie, mais comme plein de choses, des documentaires, des rencontres avec des patients.
C'était indispensable pour vous, cette préparation? C'est-à-dire, vous auriez pas pu vous en passer?
Moi, je sais pas, je travaille tout le temps comme ça, en fait. Je suis un étudiant, quoi.
Vous avez appris à crawler aussi.
Ouais, j'ai appris le catamaran, j'ai appris à crawler, j'ai travaillé avec un boxeur.
J'ai pris des kilos.
C'est Denis Roux, là. J'ai appris à peindre. J'ai appris à peindre avec Pete, mais parce qu'il faut, en fait, plus on est préparé, plus on apprend son texte, tout ça, c'est de la liberté, en fait. Et plus on, après, il s'agit de se préparer de la bonne manière, Ouais, mais plus on est préparé, plus on est libre.
Dans cette famille, il y a une autre victime collatérale, c'est l'enfant, qui est joué incroyablement par Gabriel Merz-Chama. Et cette séquence d'horoscope dans votre chambre.
Sois assuré d'une chose, Verseau. Le ridicule ne tue pas, mais la peur du ridicule peut étouffer la créativité, tordre le cou à l'imagination. Au cours des semaines à venir, ouvre-toi en toute candeur aux expériences les plus farfelues, sans craindre le ridicule. T'as compris ?
Ouais.
T'as compris quoi ?
Tout.
C'est-à-dire ?
Bah, qu'il fallait pas...
Qu'est-ce qu'il faut pas ?
Qu'il fallait pas avoir...
Faut pas avoir quoi ?
Qu'il faut pas avoir honte ?
Bah voilà, faut pas avoir honte. Faut jamais avoir honte. Jamais. Faut jamais avoir honte. Les Verseaux, ils ont pas honte. Verseau n'est 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 pas honte. Bon, allez, vas-y, maintenant je suis fatigué. Va là-bas, va voir maman, tu lui dis que je me repose. De toute façon, j'ai besoin de dormir un peu. Et ferme la porte. Ferme la porte et arrête d'avoir honte. Faut jamais avoir honte. Hein? Et tu dis bien à maman que je me repose.
Oui.
T'oublies pas.
Comment ça se passe avec des enfants sur un plateau, Leïla, Betty ?
C'est assez éprouvant et intense de travailler avec un enfant parce qu'il est dans la vérité. Lui, il est pas, il intellectualise rien. Ouais. Et ouais. Du coup, c'est. Alors après, on va pas se mentir. Gabriel, j'ai déjà tourné avec des enfants qui m'ont. C'était extraordinaire. Mais Gabriel, j'ai jamais tourné avec un enfant comme ça. Il a une écoute incroyable. C'est fabuleux. Je parlais d'une scène tout à l'heure. Il y a une scène où il est en train de parler avec son père. Et il retire le gras du jambon. Il le retire vraiment. Et tout était. Et en même temps, c'est resté un enfant. C'est-à-dire qu'après les prises, on pouvait en faire 10. Après, il demandait son petit sandwich. il disait où mon Kinder Bueno. Enfin, et ça, c'était important parce que j'ai déjà tourné avec un enfant de son âge qui demandait de la verveine entre les prises et j'ai dit bah non, tu demandes un jus de fruits ou du coca, mais tu demandes pas de la verveine. Donc c'était important qu'il reste un enfant. Mais je trouve que même dans la manière dont Joachim a écrit le personnage de l'enfant, c'est assez formidable parce que je trouve que dans les films, on donne souvent des dialogues d'adultes aux enfants.
Ouais.
Aux enterrements, ils jouent aux voitures pendant qu'on pleure et leurs émotions, elles sont déplacées.
Ouais.
Et du coup, il a une maturité folle au vu de ce qu'il vit avec ses parents et en même temps, ça reste un enfant. Et ça, je trouve que c'est là où je parle de nuances et de mais ça a été merveilleux de tourner avec lui. On est très proches dans la vie maintenant, ouais.
Et puis, je disais, vous aviez deux rôles, Damien, c'est le maniaco-dépressif, et puis bien sûr, le peintre. Vous connaissez un petit peu cette histoire, parce que vous avez été aux Beaux-Arts à Nîmes plus jeune.
Oui, à Nîmes, et puis à Bruxelles, ouais.
Oui, et donc, d'ailleurs, c'est la première fois que vous incarnez un peintre.
C'est la première fois que j'incarne un artiste même. Ouais.
Non, parce que vous avez dit à l'époque l'étude des beaux-arts a redonné un sens à ma vie à l'époque où je me cherchais. Donc ça a été super important là, la peinture pour vous.
Il y avait pas que la peinture, non. En fait, non, moi j'ai arrêté les études sans savoir ce que j'allais faire. D'habitude on fait l'inverse, on a déjà un plan puis on arrête ses études ou on change. Moi j'ai arrêté et en me disant qu'est-ce que je vais faire et j'ai fait les beaux-arts. Et où j'y étudiais un peu tous les arts, en fait. C'était une école où j'ai passé par l'architecture, la photo, la peinture, la sculpture, le dessin, tout ça. Et puis voilà, j'ai fait ça pendant 6 ans. Et puis après, j'ai voulu aller voir d'autres choses. Et voilà. Et puis j'ai finalement atterri à l'atelier de Pete.
Voilà, qui est à côté de vous.
qui m'a redonné un
donc. Voilà. Donc vous, Joachim Lafosse vous connaît, a acheté certaines de vos toiles d'ailleurs, et vous a demandé en fait de restituer votre atelier sur le plateau. Ça, c'est une drôle de chose.
Oui, mais à la fois, il me semblait assez logique. Il y a eu aussi une collaboration avec la chef décoration.
Oui.
Et j'ai assez vite compris qu'il était quand même quasi impossible d'imiter un atelier de peintre.
Mmh.
Et j'ai proposé assez vite d'utiliser mes meubles, d'utiliser ma peinture,
ouais,
aussi pour aller vraiment au réalisme,
ouais,
de l'action de Damien dans le film.
C'est très réussi. D'ailleurs, il vous a demandé donc de composer vous-même des toiles et puis d'en faire certaines inachevées que Damien,
exactement,
Bonnard achèverait. Ouais. C'est un sacré truc, ça, non?
Oui, c'était assez intéressant. Et, au début, Damien est venu dans mon atelier et,
ouais,
on a travaillé ensemble 3 jours, 4
ouais,
jours. C'était, et comme ça, c'est aussi ce que Joachim m'avait vraiment demandé, que j'invitais Damien à vraiment entrer dans ma façon de travailler, parce, ouais, qu'il y avait quand même pas mal d'œuvres achevées qui sont dans le décor. Alors, il était important qu'il y ait une logique entre les deux.
Et vous les trouvez comment, les toiles que Damien a achevées?
Oui, c'était assez bien de travailler ensemble. Et c'était très c'était très nouveau pour moi de voir, oui, comment, ouais, mes propres œuvres transformaient.
C'est même très étrange, ouais, quand on est peintre, ouais, c'est, oui, un métier de solitaire.
Oui.
Et,
ouais,
là, t'es arrivé dans un autre métier artistique, mais qui est un groupe.
Ouais.
Et,
ouais,
en plus, t'as un mec qui venait mettre ses mains dans tes peintures, quoi. Donc, j'ai essayé de le faire au mieux, parce que du coup, le temps que j'ai passé chez lui, je l'ai observé pour avoir tes gestes, pour avoir ta manière de travailler, parce que tu m'as aussi enfin, tu m'as appris à fabriquer les couleurs, enfin tout ça.
Mmh.
Et on a avancé comme ça.
C'est très beau ces scènes où on vous voit peindre. D'ailleurs, on va écouter parce que le son est incroyable. Le son, c'est vos mains qui se plaquent contre la peinture, qui chiffonnent. On écoute un petit peu. C'est vrai, Pete, que vous ne peignez jamais sur une toile blanche, c'est Damien qui le dit.
C'est pas vrai.
Ah. Au début,
je fais les deux.
Que vous la salissez aussi un petit peu au début.
Ouais, c'est très différent, en fait. Voilà, on dit ça en français, j'imagine, la peur de la toile blanche.
Oui.
On dit la même chose en néerlandais. Voilà.
Oui.
Parfois, la première action est la plus difficile. Mais je trouve que les deux sont intéressants. Ce que j'aime aussi faire, c'est quand j'ai fait quelque chose que je trouve vraiment pas bon, que je fais un autre tableau sur, oui, ce tableau, mais en utilisant le tableau qui était déjà là, alors ne pas l'effacer, mais vraiment le réutiliser, le réintégrer dans une nouvelle œuvre.
Vous l'avez un peu aidé dans ses gestes de peintre, Damien, ou pas?
On a quand même étudié sur les gestes, je crois.
Ouais.
Et, voilà, quand Damien est venu dans mon atelier, on a, par exemple, fait quelques portraits où je me souviens qu'on a vraiment, on s'est échangé le pinceau. Parfois, moi, j'ai mélangé une couleur, j'ai donné le pinceau à Damien. Et comme ça, c'était très intéressant de voir le résultat. Où on voit vraiment 2 mains et 4 yeux, je crois.
Est-ce que vous lui demandiez parfois dans quel état il pouvait se trouver, son personnage pouvait se trouver pour peindre? Parce que on peint pas pareil quand on est en haut ou en bas d'un
nuance
état.
Très importante,
ouais,
pendant les tournages, à chaque instant où Damien a peint, j'étais là.
Oui.
Et j'ai communiqué avec lui aussi et vraiment demandé quel est ton état, pour pouvoir donner mon conseil personnel.
Ouais.
Voilà.
Parce qu'on peint peut-être un peu moins bien quand on est en phase comme ça.
C'est pas tout le temps le cas. Hein. Il y a des gens qui... C'est le cas de mon personnage à ce moment-là, mais c'est pas une...
Il y a du trop contrôlé. Hein. Et j'imagine qu'en phase maniacale, on n'est pas trop contrôlé.
Vous avez assisté au tournage?
Oui.
Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette équipe, vous qui êtes seul devant votre...
Ah oui, c'est très différent. Hein. je suis parfois jaloux de voir comment un groupe fait une œuvre d'art ensemble, en groupe.
Mais tu sais qu'on peut être jaloux de toi aussi, qui a ta véranda avec
tout
ton paysage
seul,
tous les
tranquille.
Matins, et tes peintures et tes toiles.
Ouais.
Et
j'imagine.
Donc,
Est-ce qu'il y a forcément des crises quand on peint, pas jusqu'à cette maladie-là, mais est-ce que vous, parfois, vous ressentez...
Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on peut dire de l'artiste en général. Je parle de toutes les disciplines qu'on pourrait nommer des disciplines artistiques. Quand on est artiste et qu'on veut faire ça bien, qu'on prend ses responsabilités pour son art, je crois qu'il faut s'ouvrir, et quand on s'ouvre, on devient fragile. Et alors, voilà, il peut y arriver des choses.
Ouais, effectivement, il y a des moments de crise. On va écouter cet extrait où le ton monte entre les deux. Que faire quand on se retrouve face à un Damien comme lui?
Allez, il est tard.
Attends, laisse-moi finir mon dessin.
Ah non, il est tard. Il y a école demain.
Laisse-le vivre, putain. Il est en train de dessiner. Regarde. Damien. Regarde comme c'est beau. Regarde, c'est toi. C'est toi et moi, là. T'es belle? Non? Ah, t'as honte? Ah, là, il a ta honte, en fait. Ouais, c'est ça, ta honte. De toute façon, t'as toujours eu honte. Hein, on peut même plus te regarder, hein. On peut même plus te regarder, de toute façon. Mais on va crever dans notre petite vie étriquée, là.
Il n'y a personne qui a honte.
Toute censurée, comme ça, où on n'a pas le droit à rien faire.
Faut que tu prennes ton lithium.
Ouais, on va crever. On va crever.
Amine, à l'école demain, fous pas tout en l'air, s'il te plaît.
Faut qu'on change. Faut qu'on bouge, ça peut pas durer comme ça, faut changer.
Damien.
Faut qu'on parte, on prend le gosse, on s'en fout, on s'organise. Faut que je travaille plus, Laïla, faut que je sois à New York, c'est à New York que ça se passe.
Damien, tu vas prendre ton lithium, tu vas aller te coucher et j'appelle De Corte.
Mais regarde comme t'es belle, putain, regarde ça, là.
Damien.
Regarde-toi.
Damien.
Regarde-toi.
Damien, si tu le prends maintenant, tu peux encore éviter l'hosto.
Ouais, bien sûr, alors dès que je vais bien, hein, dès que je m'amuse, forcément, là, vous dites tous qu'il faut s'inquiéter. Putain, mais j'ai pas le droit d'aller bien, un peu comme ça, juste un peu, sans que vous soyez tous en train de paniquer, là. C'est possible ou pas, ça?
Et la Becti, votre agent, a dit un jour, quand vous lisez parfois des scénarios, vous dites, tiens, ce rôle serait parfait pour une telle. Je pense que celui-là... très généreuse.
Non, c'est vrai, ouais.
Alors, en quoi vous vous sentez légitime pour celui-là, Leïla, pour les intrépides?
J'attendais que ce soit Joachim qui me sente légitime pour ce rôle. J'arriverai jamais à me sentir légitime avant le metteur en scène, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il me l'a pas proposé. Il m'a envoyé le scénario. Il l'a envoyé aussi à une autre actrice. Et ce qui s'est passé, c'est que... On va dire que le casting, c'était de lui parler du film. Et quand on s'est eu au téléphone, on a eu une conversation très libre. C'est-à-dire que, évidemment, je lui ai dit tout ce que je pensais en bien du film, mais tout ce qui était aussi à retravailler. Et moi, je lui ai dit, il faut qu'avant tout, que ce soit une grande histoire d'amour et que les films exigeants peuvent parler aussi à tout le monde. Et c'est que des fois, on peut un peu rendre la chose hyper inaccessible, un peu clinique, un peu, et moi ça m'intéresse pas. Moi l'un de mes réalisateurs préférés, c'est Asghar Farhadi, et je trouve qu'il arrive à tout faire, ou même quand on regarde les prophètes de Jacques Audiard, on se dit oui, bah c'est
par
accessible
exemple.
À tout. Non mais c'est par exemple. je sais même pas qui joue dedans, bref. Et du coup voilà, donc c'est pour ça que j'ai aimé raconter cette histoire.
En écoutant cet extrait, est-ce que ça aide ou pas de conserver vos propres prénoms dans un film?
Alors, bizarrement, quand Joachim nous l'a demandé, parce qu'il nous l'a vraiment demandé dès le début, il nous a dit, écoutez, je fais pas de psychologie de comptoir, je vais vous appeler Damien et Leïla pour que ce soit plus simple sur le plateau. Et au début, j'ai commencé à faire un peu de psychologie de comptoir, on s'est parlé deux secondes, et puis on s'est regardé avec Damien, on s'est dit... Ah, vas-y, on a mille trucs à penser. C'est pas grave. Qui nous appelle, Leïla et Damien?
J'aurais pas trouvé mieux.
Non, puis sincèrement,
Ça aide peut-être un peu à se dire des choses.
Ouais, peut-être. Non, mais peut-être que finalement, inconsciemment, ça nous a aidé à rester dedans tout le temps.
Ouais, ouais.
Okay. C'est vrai, hein. Et puis tout le monde nous appelait par nos prénoms, donc du coup on était. Et puis c'était un peu un tournage confiné. Hein. On est resté deux mois
c'est vrai,
au Luxembourg.
Ouais, ouais.
Moi j'ai pas bougé de la maison dans laquelle j'étais.
Ouais.
Donc on était vraiment deux mois là-bas. Donc il y avait un Leïla et Damien pendant deux mois. C'était Leïla et Damien, quoi. Ouais.
Et Leïla de la vraie vie. C'est quoi votre route dans le cinéma, Leïla?
Ma route?
Ouais. C'est quoi? Vous avez un chemin à prendre? Vous avez des prévisions, vous avez des...
Pour être hyper honnête, moi, mon seul... Les choix que je fais, c'est alors c'est depuis quelques années, je vais pas mentir, c'est pas depuis le début, mais en tout cas depuis 4-5 ans, les scénarios que je lis, je me dis est-ce que je serais allé voir ce film. J'ai envie que ça me plaise. Alors c'est hyper subjectif parce que j'ai pas, mais en fait j'ai besoin de faire des films que je serais allé voir. Moi les Intranquilles, c'est moi j'adore les films sur le couple.
Donc ça veut dire que vous pensez au public qui va aller voir ces films. Moi je parle en tant qu'actrice. Vous...
Ah non mais en tant qu'actrice, j'ai justement.
Le rôle n'est pas privilégié, le metteur en scène.
Tout ça.
C'est la spectatrice que vous privilégiez.
Pardon.
C'est la spectatrice que vous êtes que vous privilégiez.
Oui, mais la spectatrice que je suis.
Plus que l'actrice.
Ah ouais.
Oui.
Ouais. Aujourd'hui oui. Oui. Et je trouve que après c'est pas très difficile, c'est Joachim Lafosse, c'est avec Damien Bonnard, c'était un super rôle, enfin mais tout comme là, je suis hyper heureuse, demain matin je prends l'avion, je vais rejoindre Jonathan Cohen pour La Flamme 2 et oui, c'est un programme que j'aurais regardé, des parodies de d'émissions, de télé-réalité, j'adore. J'ai mon côté spectatrice, je suis spectatrice aussi et c'est chouette de pouvoir défendre des films qu'on aime parce que ça se voit en promo. Moi je suis auditrice aussi et quand j'entends à la radio ou je vois des gens à la télé qui vendent un film qu'ils n'aiment pas beaucoup, je me dis ah merde, ça se voit là. Donc voilà.
Et sinon, il y a la chanson qui est importante dans le film, il y a deux morceaux.
Comme toujours chez Joachim Lafosse.
Comme toujours, on a plutôt choisi Jean Ferrat et cette scène de montée justement du peintre Damien dans le film. Le morceau est absolument magnifique, on la laisse avec une intervention de Lila Bechti dans la scène puisqu'elle est dans la même pièce que vous. In extenso.
Mes amours, la vie n'est qu'une chimère. Si l'amour n'est rien pas faire, ça ronde.
Laisse un peu la musique, je vais mettre le petit au lit.
Mes amours, moi qui ai cette fortune entre mes mains désarmées, tu penses à ceux qui n'ont qu'une chanson triste.
C'est le pour un minoré.
Mes amours, mais il faut tant de chansons, de poèmes d'Aragon. Pour sauver encore le nom de l'amour.
Ah bien, je suis fatiguée.
Mes amours, vous qui me savez de faire, moi qui suis la bonne affaire, te prendre votre cœur vagabond.
Damien, je vais pas tenir.
Mes amours, la cruauté n'est qu'un leurre, n'attendez pas que j'en pleure pour partager ma chanson. Mes amours, vous et moi, c'est la conquête dans ce monde dévasté. Le soleil à la fenêtre par-dessus les cheminées.
Damien.
Mes amours, mais il faut tant de chansons de
poème d'Aragon
pour sauver encore le nom.
Je vais pas tenir, Damien.
Je m'en rappelle plus.
De l'amour.
C'est drôle que vous mettiez cette scène parce qu'on a eu beaucoup de mal à la trouver.
Vous savez m'entendre, si vous savez me comprendre, Damien. Que je chante juste ou non.
Damien, j'ai plus envie de rigoler là.
Mes amours, voici la terre promise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise.
Je vais pas tenir.
Le cœur n'a qu'une chanson.
Je vais pas tenir, Damien.
Mes amours, vous voici en terre douce. La peur a cloué son bec, toujours.
Tu vas où Damien, je vais pas te courir après.
Vous disiez, Leïla, que c'était, on avait choisi cette scène, mais que c'était très difficile. Elle était très difficile.
Ouais, c'est la scène la plus laborieuse avec la fin qu'on a eu à tourner. On n'arrivait pas à trouver. Et c'est génial parce que finalement, ce qui s'est passé, tu parlais tout à l'heure, Pete, de fragilité quand on est en lâcher prise. Mmh. Et sur cette scène-là, on savait pas où on allait. On savait pas les dialogues, on savait rien. Enfin, quand je dis on savait pas les dialogues, c'est que ce qui était écrit, ça marchait pas vraiment. Sur nos et du coup de toute façon sincèrement je crois que c'est l'un des tournages les plus intranquilles que j'ai fait.
Ah oui.
Ouais. On était en total lâcher prise, il y avait beaucoup de scènes qui étaient pas écrites. Il y a un truc fabuleux que Joachim nous a offert, c'est qu'il est venu nous voir, il a été hyper honnête, il a dit écoutez, moi la fin du film, elle me plaît pas encore. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a la chance de tourner la fin du film à la fin de ce tournage. Donc c'est vos personnages qui décideront de la fin. Et du coup, on a décidé de la fin. Alors, pas Damien et Leïla dans la vie, mais Damien et Leïla...
au travail.
Au travail.
Ouais. Et avec Joachim, quand même.
Et avec Joachim, évidemment. De toute façon, c'était notre lithium, Joachim.
Non, mais en ayant éprouvé tout ce qu'on avait vécu dans le tournage, forcément, nos personnages avaient pris des positions entre-temps. Et Joachim, il orchestrait tout ça.
Oui.
Mais il y a des moments où on n'était pas du tout d'accord, toi et moi, et on s'en parlait, on se le...
Ah ouais, ça a été génial, on se formalisait jamais, on était en débat, en fait, constant, mais c'était jamais l'un contre l'autre, au contraire, mais on a vraiment raconté. Mais d'ailleurs, le soutien que les personnages se donnent, ça a été contaminé aussi dans la vie où on s'est vachement soutenu, moi je pouvais me prendre la tête sur une scène dans laquelle j'étais pas. Ah oui, moi j'étais à fond,
On était un corps à deux têtes, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. On avait un truc, et c'est génial, et c'est hyper rare, en fait, d'avoir ce genre de complicité, on a eu la même avec Joachim et tout ça, mais de pouvoir se dire des choses, de pouvoir se dire, tiens, tu veux pas la refaire parce que t'es pas très bonne, et que toi tu me dises la même chose, et parce qu'on voulait pousser le film. Et trouver la justesse des trucs, c'est hyper rare de pouvoir faire ça, en fait.
Pete, on peut voir vos toiles ainsi que celles de Damien Bonnard à partir du 7 octobre. La galerie s'appelle la Galerie Cinéma, rue Saint-Claude, à Paris. C'est génial d'avoir une expo à son nom aussi, Damien.
Oui, il est en plus petit, mon nom. Hein.
Oui, certes.
Ça viendra.
Et première expo à Paris,
en effet. Je suis très fier, content.
Ouais, mais je trouve ça hyper beau que le réel aille dans le cinéma et que ça soit des fois le cinéma qui revienne dans le réel. Je me rappelle d'avoir été voir Séraphine à l'époque et d'avoir été voir l'expo après à la Fondation Mayol.
Oui.
Et c'était génial de passer d'un film à des toiles.
Et là, ça sera génial.
Ça va être super que les gens découvrent le travail de Pete.
Galerie Cinéma, le 7 octobre.
À tous les deux.
Les Intranquilles sort mercredi prochain. On se retrouve pour les autres sorties. Après Nathaniel Ratcliffe et The Night Sweet Survivor. Well, you just think that I'm some great survivor, and you just build upon the lies that carry you. Well, I don't even talk that way. See, I wanted you to stay and show you the world's a better place. And as we crawl to find our way, we even take the shape of something else. You think that I just some great survivor. You think that I just some great survivor. I'm afraid. Some great survivor, and you just feed upon fear you created. Some people ought to see, some people ought to hear. Yeah, some people ought to see. Crowd that calls your name can cast me out. les sorties de ce mercredi, Laurent, on va commencer par le nouveau François Ozon, il en fait un par an. Tout s'est bien passé avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pellas. Adaptation du roman Tout s'est bien passé d'Emmanuel Bernheim. Elle est romancière, elle, c'est Sophie Marceau, donc dans le film, se précipite à l'hôpital. Son père André vient de faire un AVC, fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué. Il demande à sa fille de l'aider à en finir. Avec l'aide de sa sœur Pascal, elle va devoir choisir, accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d'avis. Raconter de tels enjeux sans les aborder vraiment.
Ah, je suis pas d'accord. C'est effectivement le 20e long métrage de François Ozon. Alors, s'il vous plaît, il faut dépasser le premier quart d'heure, parce que on y voit un Dussollier assez malaisant, qui a du mal à nous faire accepter son rôle, et le reste est un peu à l'avenant. Et puis, il y a une sorte de déclic, je n'ai pas très bien compris ce qui se passait, soit dans ma tête, soit dans le film, pour que ce déclic arrive, mais il arrive, et là, le film prend sa réelle dimension, qui est, à mon avis, de trouver une sorte de justesse incroyable quant à la trivialité de la façon de parler de la mort. C'est le tempo est donné par le personnage d'André, le personnage principal, qui dit ça, qui dit ouais ben je veux mourir et puis c'est comme ça, et qui donne ça à ses deux filles. Et le film, à partir de ce moment-là, trouve effectivement sa note juste dans ce quotidien, cette banalité presque de la mort, avec, il faut le dire, un trio, hein, franchement, André Dussollier et Sophie Marceau, et aussi Géraldine Pellas.
Ouais, faut pas l'oublier.
Faut vraiment la citer, parce que dans le rôle de la sœur alternative, on peut dire, par rapport à Sophie Marceau, elle est absolument
extraordinaire. La sœur sacrifiée, mais pas l'actrice sacrifiée.
Oui, elle est extraordinaire. Non, franchement, je trouve que, voilà, sur un sujet ô combien difficile, osons s'en tirer, en étant d'ailleurs tout à fait fidèle au récit d'Emmanuel Bernheim.
Encore un film avec Leïla Bekhti, il s'appelle La Troisième Guerre. C'est un premier film signé Giovanni Alloy, c'est ça? Voilà, ils étaient 12 sur le plateau, me nous a-t-elle dit avant. En fait, c'est l'histoire de Léo qui vient juste de terminer ses classes et qui, pour sa première affectation, écope d'une mission sentinelle. Utile pour la France, point d'interrogation, cette sentinelle arpente Paris à l'affût de la moindre menace terroriste, colis ou comportement suspect, mais la plupart du temps inactif, empêché d'intervenir. Attente, latence, absurdité, c'est ce que décrit si bien ce film, et en sous-main cette question, la légitimité d'un tel dispositif, celui qui va rendre parano ce jeune Léo, l'enfermer de plus en plus, en tuant dans l'œuf ses espérances, obsédé de l'ordre, celui dont il a manqué dans sa jeunesse, et portrait aussi de cette brigade dirigée par votre personnage, Leïla, mal considérée, on peut dire, par ses supérieurs, un personnage qui résume la condition des femmes dans l'armée.
Leïla Bekhti, évidemment, mais aussi Anthony Bajon et Karine Leclou. Vous êtes tous les trois extraordinaires. Franchement, c'est un trio qui marche très bien.
Non, c'est très impressionnant de voir ces brigades, effectivement, qu'on croise nous tous les jours dans Paris.
Et qui ne peuvent pas intervenir pour autre chose que les missions qui lui sont confiées.
C'est exactement ça.
Et qui sont en tenue camouflage alors qu'il n'y a pas de feuillage dans Paris.
Bien joué.
C'est vrai.
Vous disiez
non, c'est exactement ce que dit Laurent, c'est que c'est la chose qui m'a le plus interpellée, c'est que je me suis dit mais ils ne peuvent rien faire. Et d'ailleurs il y a une scène dans le métro où une femme se fait elle est pourrie, elle dit mais vous servez à quoi en fait, et c'est hyper humiliant pour eux. Mais c'est la vérité. Enfin, ils ne peuvent pas intervenir, en fait.
Donc, les militaires,
c'est très frustrant. En même temps, ils attendent que quelque chose se passe, mais ils espèrent que rien ne se passe. Enfin, c'est un métier très solitaire.
Là, ça s'appelle La Troisième Guerre. Le Sommet des Dieux, c'est un film d'animation signé Patrick Imbert à Katmandou. Le reporter japonais Fukamashi croit reconnaître à bout cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis longtemps. Fukamashi va se lancer sur les traces de cet homme et décider de l'accompagner vers son voyage ultime, c'est l'Everest, l'adaptation d'un manga très connu de Taniguchi en 5 tomes, dont il a gardé l'essentiel, la quête des deux personnages principaux.
Oui, alors vous aimez la montagne, vous aimez le manga, allez voir ce film pour paraphraser Belmondo. Non, franchement, la critique est absolument unanime. Il y a vraiment vous avez tout à fait raison. J'ai une petite réserve sur l'animation elle-même qui moi m'a pas transporté dans les sommets. Voilà, j'attendais un peu plus de grandiose pour décrire cette ambiance alpine, mais incontestablement le sommet des dieux, il faut aller le voir.
Ah ouais, parce que le magnétisme maîtrise la dangerosité de l'ascension dans les scènes sublimes, la respiration, l'air raréfié, le craquement d'un glacier. Non, moi j'ai eu très, je trouve ça très très réaliste, à la fois très poétique dans le propos. Pourquoi une passion vous mène si loin ?
Absolument.
Le sommet des dieux. Stillwater, c'est un film de Tom McCarthy. C'est incarné par Matt Damon qui joue ce foreur de pétrole qui débarque à Marseille du fin fond de l'Oklahoma pour soutenir sa fille qu'il connaît à peine, mais qui purge une peine de prison accusée d'un crime qu'elle nie avoir commis et qui, confrontée au langage de la langue, va enquêter et notamment rencontrer cette comédienne incarnée par Camille Cotta.
Oui, là, on pouvait craindre peut-être le pire, parce qu'on se disait un Américain à Marseille, ouais, bonjour les clichés.
Sauf que c'est Matt Damon.
Mais c'est un, c'est Matt Damon, vous avez tout à fait raison, et deux, le film est co-écrit avec Thomas Bilguin et Noé Debré.
Oui, donc, c'est très juste.
Ben voilà, ouais. Il donne un portrait de Marseille incroyablement juste. Oui. Là où on attendait une série de clichés à la Clint Eastwood en France, c'est pas du tout, tout ça, c'est remarquablement, il y a la description des quartiers nord remarquables, et d'ailleurs le film évolue, c'est-à-dire qu'on on a l'impression d'abord une sorte de polar dans les quartiers nord, et il bifure progressivement vers une incroyable description de Marseille au quotidien, et c'est magnifique. Guédiguian pourrait être un peu jaloux de ce que fait ce Tom McCarthy de Marseille.
Ça s'appelle Stillwater. Notturno, c'est un documentaire de Gianfranco Rosi tourné au cours de ces trois dernières années le long des frontières de l'Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban. En gros, c'est les événements du monde, mais vécus par le petit bout de la lorgnette d'habitants qui bordent ces territoires. On avait beaucoup aimé son précédent doc, Fuoco Amare, vous savez, sur la vie des habitants sur Lampedusa, traversée par des milliers de migrants. Celui-là est un peu plus abstrait.
Oui, moi je suis assez même réservé, parce qu'à force de ne pas commenter des images aussi fortes, tout devient égal, toutes ces scènes deviennent égales, des militaires, des civils, des médecins, des combattants résistants, du Kurdistan, de Syrie, de Liban, on a l'impression d'une sorte de vaste melting pot de la douleur humaine. Et finalement, le problème de Gianfranco Rosi, c'est que de temps en temps, il a la tentation de faire du beau, et de faire de belles images sur ces réalités-là. Moi, ça me dérange un peu.
Il y a quand même des scènes qui sortent de... Il y a une scène très très forte de celle de ce petit garçon qui raconte le massacre de sa famille. Et ça... Sans signe particulier de Fernanda Valadez, un premier film mexicain sur un Mexique tragique, celui de ses adolescents disparus à la frontière avec les États-Unis, c'est arrivé dans les années 2000, et une mère courage, va traverser le Mexique pour découvrir la vérité sur son fils.
Ouais, premier film incroyable, hein, vraiment. Oui, franchement, c'est parce qu'il y a une vraie tendance naturaliste, documentaire que vous venez de décrire, mais avec une capacité à saisir la poésie des paysages qu'on filme, et puis tout d'un coup l'apparition du diable. Alors on n'en dira pas plus, mais il y a vraiment un mélange des genres et une confusion, mais au bon sens des genres, avec une pureté, une grande pureté, manifestement une économie de moyens incroyable pour un coup d'essai. C'est un coup de maître, pardon, de maîtresse.
C'est un signe particulier. Je m'appelle Bagdad de Caru Alves de Souza. Et Bagdad, eh bien, c'est une skateuse de 17 ans qui vit dans un quartier populaire de Sao Paulo.
Oui, on aimerait aimer beaucoup plus sympathique portrait d'une skateuse. Alors, on voit bien que on nous raconte l'émancipation d'une jeune femme et avec l'éveil d'une conscience féministe. Malheureusement, ça pêche par une sorte de goût et d'excès du pittoresque qui gâche un peu l'ensemble.
On va terminer assez vite sur un film qui s'appelle La voix d'Aïda de Jasmila Asbanik. Srebrenica, juillet 95, une professeure d'anglais vient d'être réquisitionnée comme interprète auprès des casques bleus.
Ouais, difficile de ne pas adhérer à ce très très beau portrait de mère courage au moment du massacre de Srebrenica. Elle est à la frontière le film est à la frontière des deux, c'est-à-dire un grand portrait intimiste, mais aussi le grand portrait d'un massacre et d'une époque terrible.
Il nous reste une minute pour les cadeaux, Laurent.
Alors d'abord, un livre pour nos trois invités, qui est celui-ci, Alice Guy, qu'a-t-elle évoqué ? C'est une coédition Casterman France Inter, et c'est évidemment le portrait de la première cinéaste mondiale qu'on connaît bien maintenant, et grâce aussi à cette BD. J'ai trois Chabrol, vous voulez répartir, vous ferez bien comme vous voulez. Trois Blu-ray pour la première fois, inédit. Une affaire de femme, Betty, ça c'est avec Marie Trintignant et François Cluzet. Une affaire de femme, c'est évidemment Isabelle Huppert, la maman d'un certain petit garçon. Et puis,
La grand-mère.
Pardonnez-moi. Je l'ai vieilli tous les deux. Madame Bovary de Chabrol, évidemment, avec la même grand-mère. Voilà, allez, c'est Carlotta. Et ce sont trois très très beaux Chabrol qu'on vous recommande vivement, édité par Carlotta. Et pour la première fois, en Blu-ray, de nombreux bonus.
Merci beaucoup. Ce film est très beau. Merci. Il s'appelle Les Intranquilles. Il sort mercredi prochain. Merci au peintre Piet Ram, donc. Merci beaucoup. Merci Damien Bonnard.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis pour ce film.
Merci Léa. Merci.
Elle est merveilleuse, votre émission.
Merci. Voilà. Merci à donc, ce générique de fin, la réalisation Laurent Thomas et Claire Destac, en préparation Christophe Magère, supervision musicale Thierry Dupin. Au revoir.